Voilà, de retour sur le plateau de l'Info C'est Clair. Merci d'être avec nous. On va commenter cette matinée spéciale avec, là, on vient d'assister à la passation de pouvoir entre Elisabeth Borne et le nouveau ministre du Travail, donc Olivier Dussopt. Et puis, on verra les images du premier conseil des ministres ce matin qui se tiendra exceptionnellement dans la salle des fêtes de l'Élysée avec potentiellement, nous dit-on, peut-être un discours, enfin, ou une intervention d'Emmanuel Macron, si tel devait être cas, bien évidemment. On la retransmettrait. Pour commenter cette matinée 100% politique, Alexandra Schwarzbrod, bonjour, directrice adjointe de la rédaction de Libération. Libération qui titre ce matin « Pénurie de profs, le classe-tête pour Pap Ndiaye ». Donc Pap Ndiaye, hein, le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Je rappelle votre trilogie de polar hein, sur le conflit israélo-palestinien. Balagan, Adieu Jérusalem, Les Lumières de Tel Aviv, c'est aux éditions Rivage Noir. Nicolas Prissette, vous êtes directeur du média en ligne fondamental.fr. Et puis Gilles Bornstein, notre éditorialiste politique. Merci de participer à cette émission en direct. Gilles Bornstein, un mot, je vous ai vu écouter attentivement l'ex-ministre du Travail et nouvelle première ministre. Elle a beaucoup parlé. Alors évidemment, on était au ministère du Travail, mais elle a eu ces deux phrases quand même. Le travail, c'est la promesse de l'émancipation. C'est toujours le travail qui doit payer. Est-ce qu'au fond, ça ne la définit pas énormément, ça, elle, qu'on décrit comme une bosseuse qui connaît ses dossiers jusqu'au bout des ongles, même, a dit hier, avec un brin de malice, Jean-Luc Mélenchon.
Ça la définit, elle, et ça définit le macronisme. C'est-à-dire que vous avez raison, elle est une bosseuse. Tout le monde dit qu'elle n'est jamais prise en défaut de connaissances ou d'imprécisions techniques sur un dossier. Et puis quand elle dit que le travail était la matrice de tout, de l'émancipation, de l'égalité des chances, que tout doit arriver au travail, on sent, alors là, pour le coup, il nous a parlé de rupture. Alors là, on ne sent aucune rupture par rapport au projet macroniste du premier quinquennat, qui est, oui, que certains diront, comme pour Nicolas Sarkozy, tout doit arriver du travail, c'est le travail, c'est donner à chacun, le projet d'émancipation, c'est de donner à chacun de respecter une certaine égalité à la source, au départ, pour que tout le monde puisse avoir accès au travail, et c'est le travail, plus que les prestations, plus que l'assistanat, qui doit émanciper. C'était d'un classicisme absolu, à la fois dans la forme. C'est pas ni Olivier Dussopt ni la première ministre ne sont des comiques troupiers. C'était assez sérieux, c'est pas facile pour Olivier Dussopt parce que généralement quand on reçoit l'hommage de celui qui part, celui qui part par définition il part. Là, elle part du ministère du Travail, mais enfin ça va être au quotidien sa patronne. Ouais. Donc il était quand même sous surveillance et ils seront tous les deux au Conseil des ministres.
Qui va commencer d'ici une demi-heure.
Vingtaine de minutes.
Alexandra Schwarzbrod, ce ne sont pas des comiques troupiers tous les deux, dit à l'instant Gilles Bornstein. Elle a remercié ses équipes, Elisabeth Borne, en disant « Vous n'avez pas compté vos heures, vos jours et vos nuits ». On a l'impression qu'avec Elisabeth Borne à Matignon, on ne va pas s'amuser tous les jours. Mais même nous, elle travaille beaucoup, mais ça n'est pas enflammée. On a l'impression qu'elle s'adresse vraiment à notre raison et non pas à notre passion. Est-ce que...
Oui.
C'est pas Jean Castex, ça manque un peu, peut-être, on s'ennuie.
Ah ben c'est sûr, c'est l'anti-Castex, hein, Elisabeth Borne. Mais cela dit, elle n'est pas là pour rigoler, elle n'est pas là pour nous faire rigoler. Elle est là, elle a un agenda extrêmement rempli, serré, hein, avec la réforme des retraites, justement. On est en plein dedans, la réforme des retraites, le pouvoir d'achat, la crise économique qui vient. Avec, on l'a vu, l'inflation, tout ce qui va manquer à cause de la guerre en Ukraine. Donc, je pense que là, elle est dans son rôle. En effet, on l'a entendu prononcer le mot travail, je ne sais combien de fois, quasiment à toutes les phrases. Je pense que ça la résume bien. C'est, en effet, on a beaucoup dit, c'est une bosseuse. Elle bosse et elle a fait bosser ses équipes beaucoup. Ça a été dit. Hein, parfois tard dans la nuit, on l'a qualifiée du petit nom de Madame Burnout. Moi, j'avoue que...
Pas sa première semaine à Matignon. Il y a ce sondage Ipsos qui est tombé ce matin. Quelle image portez-vous? Quel regard portez-vous? Le premier regard, ceux qui gagnent, c'est indifférent, 38%. Satisfait, 34%. Mécontent, 28.
Vous l'avez assez bien résumé. C'est pas quelqu'un qui soulève les passions. C'est pas quelqu'un qui peut faire rire comme Jean Castex avec ses lunettes. Elle, je pense qu'elle ne risque pas de perdre ses lunettes. C'est quelqu'un qui est là pour faire le taf. Enfin, c'est vraiment là pour faire remplir la fiche qu'on lui a fixée, l'agenda qu'on lui a fixé. Et encore une fois, qui est très chargé. Donc, je pense qu'elle veut pas perdre de temps. je trouve que sa première semaine est plutôt un sans faute. S'il n'y avait l'affaire Damien Abad,
dont on va parler dans une minute.
mais finalement, pour quelqu'un que l'on pensait très, très coincé, très rigide, je trouve que sa première sortie là, auprès des femmes au Mureau était plutôt réussie. Parce qu'elle a réussi à mettre un peu de chaleur. Elle a fait passer un message qu'elle avait déjà fait passer
sur sa nomination.
Sur les marches de Matignon, et qui était assez fort. Hein. Je pense que ça a parlé à toutes les petites filles, justement, et les femmes. Et c'est important en ce moment. C'est
son
très
parcours
important.
Est inspirant. D'ailleurs, quand elle dit le travail, au fond, c'est le travail qui l'a menée là où elle est. Elle, petite fille de pupille de la nation.
Oui, je pense que c'est important de donner cet exemple-là. Et d'ailleurs, Olivier Dussopt l'a dit aussi, lui aussi, fils d'ouvrier, qui maintenant est ministre du Travail. Bon, je pense que c'est bien de donner des exemples comme ça. Cela dit, il ne faudrait pas dire que la vie se résume au travail. Le travail, quand c'est une passion, c'est formidable. Quand il est subi, c'est autre chose. Et malheureusement, en France, il y a beaucoup de gens qui subissent leur travail.
Des réformes impopulaires et délicates à passer. Nicolas Prisset, vous qui avez un prisme éco-social, comment les syndicats appréhendent-ils les négociations avec Elisabeth Borne? Parce que, comme elle a été patronne de la RATP, par exemple, ils disent que c'était compliqué pour la réforme de la SNCF parce qu'elle connaît parfaitement ces sujets, en fait. Donc, nous, les syndicats, on pouvait pas la voir, quoi.
Il y a la méthode, il y a le projet sur la méthode. Bon, c'est évidemment la concertation qui est prônée par Emmanuel Macron maintenant. Il y aura des réunions avec les syndicats pour la mise en œuvre des retraites. C'est le nouveau président avec une nouvelle façon de faire. Elisabeth Borne, les syndicats qui ont travaillé avec elle à la RATP disent que c'était quand même compliqué, que c'était difficile parce qu'elle avait à la fois une connaissance, on vient de l'évoquer, très précise et très technique des sujets, puis en même temps une direction affirmée, assumée et avec des capacités de négociation mesurées. Donc, ça, c'est sur la méthode. Après, sur les objectifs politiques, Emmanuel Macron veut porter la retraite à 65 ans, peut-être un peu moins, on verra, mais les syndicats ont dit qu'ils étaient tous contre. Donc, les rendez-vous qu'Olivier Dussopt vient d'évoquer à l'instant, ils risquent pas très bien de se passer. C'est-à-dire qu'il va avoir face à lui eh bien, un front commun d'organisations syndicales qui vont dire...
On va avoir des grèves à la rentrée.
D'accord. Est-ce qu'il y aura des grèves à l'entrée? C'est difficile de prévoir, mais il y en a souvent eu quand il s'est agi de réforme des retraites, que ce soit pour les régimes spéciaux ou pour le régime général. Il y a des mouvements de mobilisation syndicale, ça c'est un grand classique dans l'histoire sociale française. Est-ce qu'il y en aura cette fois-ci? Ça va dépendre de la tournure des événements, mais pour l'instant... Vu les postures des uns et des autres sur le front syndical, c'est difficile d'imaginer que ça se passe bien. Il faudra qu'il y ait des éléments supplémentaires qui soient posés sur la table. Alors, elle a déjà évoqué hein, les 65 ans. D'après
c'est pas un totem,
elle dit. Voilà, ça, peut-être que ça peut être moins. Il y a une question de calendrier, de mise en œuvre. Et puis, il y a aussi une question de finalité. Parce que 65 ans, ça tombe pas de nulle part. C'est-à-dire que repousser l'âge légal aussi loin... serait fait par Emmanuel Macron pour générer des recettes supplémentaires. Si vous voulez, si on parle 3 minutes de technique, pour équilibrer le régime de retraite, il n'y a pas besoin d'aller à 65 ans. C'est ce que vous disent tous les gens sérieux qui ont travaillé là-dessus, y compris le Conseil d'orientation des retraites, qui estime que l'équilibre va plutôt se faire autour de 64 ans. Donc pourquoi faire travailler les gens un an de plus? Ça, c'est l'idée d'Emmanuel Macron, c'est pouvoir dégager davantage de moyens financiers pour augmenter les retraites et puis peut-être consacrer davantage de moyens à la dépendance, à l'autonomie des personnes âgées. Mais ça, pour pouvoir le faire, encore faut-il pouvoir arriver à mettre la barre à 65 ans. Et si vous avez un front des syndicats qui arrive à mobiliser l'opinion, puisque l'opinion est majoritairement contre cette idée...
À 70%.
Et majoritairement contre, il y a un obstacle politique majeur qui attend Olivier Dussopt et le gouvernement.
Alors, en attendant, la Première ministre sort du ministère du Travail et elle va aller à l'Élysée pour le premier conseil des ministres. Premier conseil des ministres avec déjà... une question, y aura-t-il Damien Abad, puisque c'est le premier ennui qui est tombé sur la tête d'Elisabeth Borne, Damien Abad, le nouveau ministre des Solidarités, qui est visé par des accusations de viol. Alors, il réfute ces accusations. Le point avec Muriel Rousselin.
Damien Abad, visé par des accusations de viol présumé, sera-t-il présent au premier conseil des ministres? Selon Mediapart, deux plaignantes ont signalé via une association que Damien Abad les aurait violées entre 2010 et 2011. Le 13 mai dernier, dans une lettre adressée à l'Observatoire des violences sexuelles en politique, une plaignante accuse.
Dans la lettre, elle décrit cette soirée où il a beaucoup insisté pour qu'elle boive une coupe de champagne et ensuite elle décrit un blackout. Elle décrit ce qui, selon elle, s'apparente à un piège qui a conclu à un viol.
Des faits, signalée aux directions des Républicains et de La République En Marche, sans qu'aucune réponse ne soit apportée. En 2017, une autre femme avait déposé plainte pour viol. Une plainte qu'elle avait mis du temps à déposer. Elle a été classée sans suite.
J'ai porté plainte au commissariat un an après, mais je n'ai pas réussi à signer et aller jusqu'au bout. Mais 6 ans plus tard, j'ai réussi à le faire. C'est parce que Damien Abad était omniprésent dans les médias et que je ne pouvais plus supporter juste de le voir, d'en souffrir et que lui ne soit inquiété en rien.
Des faits niés par le ministre, mettant notamment en avant son handicap.
Ces accusations relatent des actes ou des gestes qui me sont tout simplement impossibles à raison de mon handicap.
En visite dans le Calvados hier, la Première ministre a réagi.
Bien évidemment, je n'étais pas au courant. Je vais être très clair sur tous ces sujets de harcèlement, d'agression sexuelle. Il ne peut y avoir aucune impunité.
Le parquet de Paris dit étudier les faits avant de se prononcer sur l'éventuelle ouverture d'une enquête.
Incroyable, Alexandra Schwarzbrod, là, cette affaire. Ils se sont fait prendre comme des débutants.
Ce qui est sidérant, c'est que ça fait 15 jours qu'on attend ce gouvernement. Et donc, l'explication qui était donnée, c'est qu'il fallait du temps pour passer au crible les CV de chacun et de chacune. Et que personne n'est vu qu'il y avait quand même des soupçons sur Damien Abad. Manifestement, quand même, ces plaintes, ces plaintes sont remontées auprès des directions de LR et LREM. Donc ça paraît insensé que la Première ministre ne soit pas au courant. Il y avait beaucoup de gens qui étaient au courant. On a publié ce matin dans Libé justement un papier qui fait le point sur le sujet. Et manifestement, voilà, comme d'habitude, vous avez cette fameuse petite phrase qui revient toujours, tout le monde savait. Voilà, il y avait beaucoup de gens qui savaient et qui avaient un souci avec Damien Abad.
Impossible physiquement de commettre les actes décrits du fait de mon handicap, comme si son handicap l'avait protégé au fond.
Bon, je vais pas revenir sur les faits exacts, parce que d'abord il y a quand même présomption d'innocence, hein, tant que le procureur
n'a pas.
Elle est
compliquée, la présomption d'innocence.
Ah ben c'est
avec
très compliqué. Simplement. Ce qui n'est pas compliqué, ce qui est très simple, c'est que à la seconde où il y a ne serait-ce qu'un le moindre doute, normalement la personne concernée devrait se mettre en retrait le temps d'être soit lavée de tout soupçon, soit inquiétée. Là, c'est quand même insensé qu'on ait nommé quelqu'un dont beaucoup savaient qu'il y avait des doutes. Sur ce sujet. Donc, moi, je serais Damien Abad ou je serais la chef du gouvernement ou le président de la République, je me mettrais en retrait le temps que cette affaire aille jusqu'au bout, le temps de voir si le procureur s'en saisit ou pas, et parce que c'est quand même insensé que ce premier gouvernement ce nouveau quinquennat démarre de cette façon-là. Et d'ailleurs, on se souvient que le premier gouvernement du premier quinquennat Macron avait déjà démarré avec des soupçons sur le ministre de l'Intérieur. Donc ça fait beaucoup quand même, ça fait beaucoup, ce n'est pas normal et il devrait en effet y avoir aucune impunité sur ces questions, aucune. On est passé dans une autre époque, c'est fini ce genre de choses, on ne peut plus les tolérer.
Gilles Bornstein, vous vouliez réagir? Non,
non, je dis que d'abord, c'est effectivement politiquement extrêmement coûteux pour le gouvernement, parce qu'Alexandra disait que la première...
Mais justement, moi, c'est la question que je me pose. Ça tombe par hasard, cette affaire, tout le monde savait, mais pourquoi est-ce que ça tombe... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Ça tombe par hasard, cette affaire, ou est-ce qu'elle a été, comment dire, est-ce que c'est une boule puante? C'est-à-dire que dossiers sur chacun et on les lâche au gré des circonstances pour nuire à une personne à un moment critique de sa carrière.
Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne peux pas répondre à cette question comme Alexandra. Je n'arrive pas à comprendre. Ça fait effectivement des semaines que le gouvernement travaille à la composition du gouvernement. Ça fait des mois qu'on dit que Damien Abad est une prise potentielle pour le gouvernement. Donc franchement, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont eu tout le temps de savoir ce qu'il en était du dossier de Damien Abad. Les Républicains ne sont pas tellement mieux, parce que moi aussi j'ai eu des Républicains ce week-end qui me disent « mais on savait tous ». Ben, si vous saviez tous pourquoi il est resté président du groupe. Donc tout le monde savait. Après, je J'ai entendu
parce que le témoignage des femmes, ce sont d'anciennes militantes. On se demande pourquoi elles seraient allées. Pourquoi elles seraient allées inventer ça. Ce qu'elles racontent est tout à fait là, les soupçons de mettre du GHB dans les coupes de champagne. C'est tout à fait typique de démarches.
Elles ne vont pas jusque-là. Enfin, elles s'interrogent.
Elles s'interrogent. Elles boivent une coupe de champagne. Elles se retrouvent le lendemain dans son lit, blackout total.
L'affaire est d'une folie. Moi, j'ai lu les 16 pages du papier de Mediapart. C'est quand même d'une glauquerie. Tout cela. On devrait vraiment être très loin de la politique avec tout ça. Après, je suis obligé de constater quand même, quand Alexandra dit le doute, il ne doit pas y avoir de doute, le doute doit faire qu'on écarte Damien Abad, je constate que en bon droit, le doute doit profiter à l'accusé. Et là, de plus en plus, ce que je peux comprendre, le doute doit nuire à la personne. Alors, j'entends qu'on est dans des circonstances
où l'on écoute la parole des femmes en matière de viol après l'avoir trop longtemps ignoré.
Il y avait eu un MeToo politique, donc une tribune des femmes en politique qui disait que le simple témoignage de femmes contre quelqu'un doit suffire à ce que cette personne soit écartée de toute investiture ou de toute responsabilité politique.
Alors là, il y en a plusieurs.
Il y en a deux. Ouais. J'entends que ça devient certainement inévitable. Maintenant, c'est quand même une ère nouvelle qui s'ouvre.
Nicolas Prucet, les heures sont comptées. Damien Abad, il y a une vraie question. Est-ce qu'on va le voir? Est-ce qu'il peut tenir? Voilà la question.
Oui,
d'autant que c'était une prise de guerre. C'est pas non plus un personnage central dans le dispositif gouvernemental.
Alors, une prise de guerre quand même, c'est-à-dire que c'est la principale recrue à
chez
droite. D'Emmanuel Macron pour ce gouvernement. Après, est-ce que ces heures sont comptées au sein du gouvernement? En tout cas, nécessairement, la question se pose pour le président de la République et la Première ministre. On peut rappeler le cas de Gérald Darmanin, puisque vous l'évoquiez tout à l'heure. Gérald Darmanin qui a eu des signes de reconnaissance de la part du chef de l'État dès le moment où les affaires le concernant ont été évoquées ou ressorties dans la presse. Il faut rappeler que pour Gérald Darmanin, il y a un non-lieu dans une affaire qui a été requis par le parquet et dans l'autre affaire, elle a été classée sans suite. Donc la justice a travaillé et elle aboutit à ses conclusions.
Ce qui n'est pas le cas.
Enfin, en tout cas, il aboutit à une conclusion, puis il y en a une autre qui va venir. Pour ce qui est de Damien Abad, on n'en est qu'au début de l'histoire et on n'en sait pas grand-chose finalement. Les informations qu'on a, c'est une partie des informations. On n'a pas tout ce qu'on pourrait ou devrait ou espérerait savoir sur ces affaires-là. Vous parlez de la présomption d'innocence, mais je pense que le point principal, il est là. C'est-à-dire que dans toutes les affaires politiques, mais qu'elles concernent des histoires de harcèlement, d'agression sexuelle ou d'autres histoires, on est passé de la présomption d'innocence à la présomption de culpabilité ou quelque chose comme ça. Bon, le fait qu'il y ait une justice de l'opinion qui se fasse dans ces moments-là, peut-être qu'on est obligé d'en passer par là parce qu'il faut changer d'époque et que c'est un moment qui doit être temporaire. Mais si on en reste à la justice d'opinion, on n'est plus dans l'état de droit.
Pardonnez-moi, il y a Damien Abad qu'on voit en ce moment même arriver à l'Élysée, donc pour le Conseil des ministres, il est bel et bien présent. Voilà, pardonnez-moi, je vous ai coupé, Nicolas Prucet. Donc vous disiez, opinion. Ouais.
Je conclue juste là-dessus, c'est que si on est dans la justice d'opinion, on n'est pas dans la justice. Parce que l'opinion, c'est pas la justice.
C'est le Twitter, quoi.
Voilà, l'opinion, c'est pas la justice. La justice, c'est un processus avec du contradictoire et puis un examen des faits et puis un jugement. Avec, au préalable, une règle du jeu. Et donc, mon dernier point, c'est ça, c'est que peut-être que là, il est temps de repréciser quelle est la règle du jeu en politique pour toutes ces affaires. Vous avez des candidats aux législatives qui sont aussi accusés de faits de harcèlement. Ceux-là, ils sont toujours candidats. Ouais. Alors Damien Abad, s'il n'est plus ministre, par exemple, dans quelques jours, sur quoi ça repose? Donc la règle du jeu, il faut qu'elle soit reposée précisément pour tout le monde et puis que quelqu'un, ou en tout cas que les instances, les responsables, puissent rappeler régulièrement aussi que la présomption d'innocence, c'est ce qui fonde quand même l'état de droit. Parce que sinon, on tombe dans un état d'opinion et là, c'est la porte ouverte à l'injustice.
Oui. Alexandra Schwarzwald, puis après, on va passer à autre chose. Est-ce que c'est une question peut-être aussi de génération? Non, c'est vraiment une question naïve que je pose là-dessus.
Mais c'est surtout, je pense, qu'il y a eu pendant tellement longtemps une impunité. Regardez, là d'ailleurs, il y a des signalements qui ont été remontés aux directions de LR.
Ça date de 2010-2011.
Et il ne s'est rien passé. Et donc, si vous voulez, je pense que là, peut-être qu'il y a excès en ce moment, qu'il y a des excès et qu'on va dans... Mais simplement, c'est pour répondre à des excès dans l'autre sens. C'est-à-dire que maintenant, on ne supporte plus personne, les femmes au premier chef, mais beaucoup d'hommes aussi, ne supportent plus cette espèce d'impunité, et surtout dans le monde politique, où ça s'est produit pendant des des décennies, enfin pendant et même bien davantage. Et maintenant, je crois qu'il y a une espèce d'intolérance totale au moindre soupçon de harcèlement ou de viol. Ce n'est plus tolérable. Ça s'est passé pendant trop longtemps sans que personne n'ouvre la bouche et avec des directions de parti qui couvraient leurs membres soupçonnés. Et ça, c'est plus tolérable. Donc, en effet, peut-être que parfois il y a des excès et qu'il faut se méfier. Donc c'est pour ça qu'il faut rappeler la présomption d'innocence. Mais il faut comprendre toutes ces femmes qui ne tolèrent plus que leurs paroles soient piétinées.
Si on rappelle la présomption d'innocence et qu'on le sort du gouvernement, en fait, on rappelle une présomption d'innocence, mais pour rien. Donc ça pose quand même une... Enfin,
bien sûr que ces affaires sont pas ça. On vient de voir Éric Dupond-Moretti, Gilles Bornstein. Comment on avait prédit ici même le départ d'Éric Dupond-Moretti. Comment se fait-il qu'il ait réussi à maintenir sa place alors que pour le coup, il est mis en examen et qu'il a l'ensemble des magistrats contre lui? Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il décidé contre vents et marées de le maintenir à la justice?
Alors il y a une raison qui est avancée par l'exécutif, qui est qu'il doit mener à bien les états généraux de la justice qu'il a commencé et que donc il n'y avait pas de raison de changer d'interlocuteur. Après, il y a une autre raison plus politique qui se murmure, c'est que Emmanuel Macron n'avait pas envie de céder aux magistrats qui demandent la tête du ministre. C'est vrai que l'affaire, il est mis en examen, mais l'affaire est un petit peu compliquée.
C'est un acte d'autorité. Le patron, c'est moi. C'est pas les juges qui décident de qui est à garde des Sceaux.
Voilà, on peut l'interpréter comme ça.
Alors, la grande nouvelle de l'effet waouh et qui vaut ce matin la une de Libération de ce gouvernement, c'est évidemment Pap Ndiaye à l'Éducation nationale. Pap Ndiaye qui est décrit ce matin par les Échos d'ailleurs comme l'anti-Jean-Michel Blanquer. Je vous propose de voir son portrait et après on en parle. Portrait dressé par Valérie Lerouge et Mathias Barrois.
Il prend la tête du plus grand ministère de l'État. À 56 ans, Pap Ndiaye succède à Jean-Michel Blanquer à l'Éducation et Sarah El Haïry à la Jeunesse.
Je suis peut-être un symbole, celui de la méritocratie, mais aussi, peut-être aussi, celui de la diversité. Je n'en tire nulle fierté, mais plutôt le sens du devoir et des responsabilités qui sont désormais les miennes.
Pap Ndiaye était jusqu'alors directeur du musée de l'histoire de l'immigration à Paris. Né de père sénégalais et de mère française, il est diplômé de l'école normale supérieure, agrégé d'histoire et professeur à Sciences Po. Il s'intéresse à l'histoire de la communauté noire pendant ses 5 années passées aux États-Unis. En 2005, il cofonde le Conseil représentatif des associations noires de France, longtemps présidé par Louis-Georges Thin.
Je dirais que c'est un militant apaisé. Il est vrai que nous avons besoin d'apaisement en France. C'est quelqu'un qui est droit sur ses valeurs, mais qui explique les choses, en fait. Et c'est ça son talent. C'est un pédagogue et nous avons besoin de gens comme lui.
Mais cela n'empêche pas Pap Ndiaye d'avoir des propos bien arrêtés, voire polémiques, comme en 2020 sur la police française.
L'attitude de déni en ce qui concerne les violences policières en France est tout à fait classique et depuis longtemps. Il y aurait des violences policières aux États-Unis. En France, il n'y en a pas, puisqu'on vous dit qu'il n'y en a pas. Et d'ailleurs, nous sommes en République.
Le profil de Pap Ndiaye tranche avec celui de son prédécesseur. Il est le seul qui trouve grâce aux yeux de Jean-Luc Mélenchon, qui salue un choix audacieux.
Alors, Alexandra Schwarzbrod, avez-vous été surprise, vous aussi également, vendredi à la nomination? Et qu'en avez-vous pensé? Je cite le syndicat SNES-FSU qui y voit un symbole de rupture avec Jean-Michel Blanquer.
Oui, vous voyez, tous ces fois où on prononce le mot symbole, hein, le Pap Ndiaye, le premier, l'a prononcé, qu'il était symbole à la fois de la diversité et de l'ouverture. Et là aussi, vous venez de prononcer dans la bouche de ce syndicaliste le mot symbole. Oui, c'est tout ça à la fois. C'est un symbole et c'est bien au-delà aussi, Pap Ndiaye. Moi, j'ai été en effet très surprise. On était tous très surpris, là, à Libé, quand on a vu prononcer le nom de Pap Ndiaye. C'est quelqu'un qu'on connaît bien, qui écrit souvent dans nos colonnes et qu'on apprécie. c'est quelqu'un d'une immense valeur. Le mot apaisement a été prononcé aussi. C'est quelqu'un qui est apaisant, enfin qui n'est pas là pour crisper, pour hystériser, contrairement à Blanquer, qui aimait bien, qui avait ce côté un peu qu'on retrouve d'ailleurs chez Emmanuel Macron. Lui aussi aime bien faire de la provoque, dire des petites phrases dont ils savent que ça va provoquer un tollé. Ils aiment bien ça. Pap Ndiaye, c'est l'inverse. C'est quelqu'un qui se veut apaisant. Et donc, je trouve qu'au ministère de l'Éducation nationale, qui a été tellement mis à mal par la période Blanquer, qui n'a cessé d'organiser, désorganiser, réorganiser.
C'est même une gifle pour Jean-Michel Blanquer, vous trouvez? Il a dû l'avoir doublement mauvaise, de quitter le ministère, et deux, que ce soit Pap Ndiaye qui le remplace.
Bien sûr, puisqu'on a nommé à ce poste quelqu'un qui est l'exact opposé de ce qu'il est et de ce qu'il représente. Et donc, c'est un peu une gifle, mais bon... Je crois quand même Emmanuel Macron s'est quand même rendu compte du gouffre qui était en train de se creuser entre lui et les enseignants, parce que les dernières petites phrases de Blanquer sur le fait qu'il allait promouvoir les enseignants qui travaillaient plus, qui travaillaient davantage, sous-entendant qu'ils ne travaillaient pas assez. Bref, les enseignants n'en pouvaient plus de Blanquer. Alors, il ne faut pas non plus, évidemment, céder à tous ceux qui... Enfin, il n'était pas question de leur céder, mais quand même, il faut renouer le lien, il faut remettre de la confiance, il faut remettre de l'apaisement dans ce domaine. Il y a tout à faire, comme nous le disons ce matin dans l'IB, l'éducation nationale, comme les hôpitaux, ce sont deux secteurs qui sont dans un secteur qui sont à terre, détruits, qui ne sont plus capables de fonctionner. Et donc, il y a un boulot colossal. Est-ce que Pap Ndiaye, avec toutes les qualités dont il dispose, va avoir les marges de manœuvre, la possibilité de remettre tout ça sur les rails? Au moins, il va cesser l'hystérisation.
Alors, on le voit arriver à l'Élysée. Gilles Bornstein, est-ce qu'il faut aussi y voir à trois semaines... Voilà, Pap Ndiaye, à 3-4 semaines des législatives, un clin d'œil à l'électorat mélenchoniste et en même temps un risque vis-à-vis d'un électorat de droite qui pourrait se crisper parce qu'il va prêter le flanc aux accusations de wokisme. Hein, indigéniste assumé, dit Marine Le Pen, Éric Zemmour parle d'un ministre qui veut déconstruire l'histoire de France.
Absolument, vous avez parfaitement raison. C'est vrai que c'est un signal vers l'électorat qui pourrait être tenté par la NUP et qui a été tenté par Jean-Luc Mélenchon et qui maintenant, dans les enquêtes d'opinion, montre qu'il est plutôt tenté par la NUP, parce que c'est vrai que pour l'instant, cette entreprise politique fonctionne. Et c'est vrai que la majorité doit se battre, vous l'avez dit, sur sa droite, modérée, mais doit aussi essayer de ne pas laisser le champ libre.
Qui représente le vrai danger à l'Assemblée nationale, la NUP.
Qui représente le vrai danger à l'Assemblée nationale.
On va voir d'ailleurs les projections, on va les voir. La projection de Ipsos ce matin, Assemblée nationale, on va
jusqu'à
voir que...
195 sièges pour la NUP, ce qui est absolument énorme. Aucun de nous autour de cette table n'aurait pu dire juste avant les présidentielles, même après le deuxième tour de la présidentielle, d'abord que Jean-Luc Mélenchon allait réussir à ce point son entreprise.
Voilà, on voit 195, voilà, la majorité c'est 289, ils en sont loin. Enfin, 195, si la NUP, Jean-Luc Mélenchon arrive à avoir 195 députés, c'est énorme.
Exactement. Et il y a un chiffre important, c'est que vous voyez à gauche de la partie jaune du camembert, 290, c'est pas un chiffre au hasard. Aucun institut de sondage n'a osé pour l'instant donner une majorité en dessous de la majorité absolue qui est de 289 sièges. Donc on voit qu'il y a effectivement pour l'instant, alors c'est des enquêtes qui sont faites sans les vrais noms des vrais candidats dans les circonscriptions. Mais enfin, quand même, on voit que c'est compliqué et que vous avez raison, Pap Ndiaye peut être un signal donné à cette partie de l'opinion. On voit que même Jean-Luc Mélenchon, la secrétaire générale du SNES, ont été obligés de saluer cette nomination. J'observe que dans la polémique sur Pap Ndiaye, en fait, on lui reproche un certain nombre de prises de position qui ne sont pas dans son périmètre ministériel. Tout ce qu'il a dit sur le wokisme, les études...
Alors on peut dire que c'est quand même la vision de l'histoire de France qu'il pourrait vouloir transmettre aux enfants.
Oui, mais il y a un ministre... absolument. Mais
dans
il y a
la droite ligne de ce qu'avait dit Emmanuel Macron sur le colonialisme, d'ailleurs.
Absolument. Mais il y a une ministre de l'enseignement supérieur, Mme Retailleau, qui sera chargée de ces dossiers. Et c'est vrai que lui, Pap Ndiaye, sera chargé des dossiers de l'éducation nationale, du primaire, de la maternelle, du secondaire, des maths à l'école, de la rémunération au mérite des profs, comme l'a dit Alexandra, de la crise des vocations. Donc, sur ces sujets-là, on ne sait absolument pas ce qu'il pense, tant c'est un universitaire.
Justement, Nicolas Prisset, est-ce qu'il n'est pas là le risque d'avoir nommé à la tête de ce ministère très technique, et cet énorme ministère, il y a près d'1 million de personnes et 12 millions d'élèves qui dépendent de l'éducation nationale, un novice qui, il y a une semaine, n'avait absolument pas qu'il allait se retrouver catapulté ministre de l'Éducation nationale. Je cite le même syndicat SNES-FSU qui prévient déjà « L'éducation nationale ne se gouverne pas à coups de symboles ». On vous attend, monsieur le ministre.
Et oui, c'est un immense défi pour lui, un défi politique, parce que, vous l'avez rappelé, c'est un historien, c'est quelqu'un qui est dans le travail universitaire. Il a eu des expressions extrêmement pondérées, très rationnelles, sur toutes les questions d'intégration et des minorités. Ça lui a reproché par l'extrême droite, mais bon, ça, c'était un peu attendu, c'était sans doute un peu voulu aussi. Maintenant, il va se retrouver à devoir mettre en œuvre le programme d'Emmanuel Macron, et Emmanuel Macron aurait très bien pu nommer à ce ministère quelqu'un qui est connaisseur des arcanes de la négociation avec les syndicats, des détails techniques, un peu comme Olivier Dussopt le saura ou comme Elisabeth Borne a été dépeinte il y a quelques minutes, parce que il y a un chantier qu'il veut mettre en œuvre qui est extrêmement compliqué. Il veut demander aux enseignants, pour en résumer vraiment brièvement, il veut leur demander de travailler plus et en contrepartie, ils auront des meilleures rémunérations. Je fais simple, hein.
Mais
c'est ça l'esprit. Donc pour mener à bien ce type de chantier à l'éducation nationale avec des syndicats qui sont puissants et qui sont en capacité de négocier, eh bien, le profil de négociateur aura été sans doute le plus logique. Non, il nomme Pape Ndiaye, qui est, on l'a dit, quelqu'un qui représente quelque chose, qui représente une école de pensée, qui représente une forme de pondération, de recul sur l'histoire, et qui a, de par son histoire aussi personnelle, eh bien, une incarnation de ce que peut être l'intégration à la française. Donc, grand défi, mettre en œuvre ce type de politique avec quelqu'un qui n'a pas l'expérience de la confrontation et de l'arbitrage direct. Et il faut souhaiter qu'il soit épaulé à Matignon et à l'Élysée pour arriver à avancer.
Alexandra Schratt, vous diriez que c'est le poste le plus dur de la République, le poste de ministre de l'Éducation nationale, et que
c'est un des plus durs. Mais comme je le disais, il y en a tellement là, des postes durs. Je pense que celui Olivier Dussopt qui va s'occuper de la réforme des retraites,
oui,
ça va être très très chaud.
On ne sait que choisir en matière de difficultés.
La nouvelle ministre de la Santé, elle a un chantier mais colossal devant elle. Surtout qu'on n'est pas à l'abri que le Covid-19 ne s'arrête, n'est pas totalement disparu. Enfin bref, là il y a quelques ministres qui vont passer des nuits très très courtes.
Et pourtant, tout le monde, enfin beaucoup d'hommes politiques se battent pour être ministre, et devenir ministre, c'est le graal absolu. On ne peut s'empêcher de re-regarder cette réaction de Yaël Braun-Pivet, qui est tout à sa joie quant à la télévision. Eh bien, on la nomme ministre de l'Outre-mer. Je vous propose de revivre ce moment de communion presque, tant la joie se lit sur son sourire. On regarde.
Madame Yaël Braun-Pivet, ministre des Outre-mer.
C'est une grande joie et une grande responsabilité. Cette possibilité qui m'est offerte d'être utile à mon pays et à mes concitoyens, c'est un tel honneur que j'y mettrai toute mon énergie.
Alors Alexandra Schratt, ça fait plaisir. On reproche à Elisabeth Borne de ne pas être communicative, de toujours lisse et monocorde. Là, il y a de la joie, c'est quoi? C'est
oui,
un accomplissement?
C'est drôle parce que je l'ai vue samedi, je participais à un salon du livre à Sartrouville, et elle était là, alors qu'elle n'était pas prévue, elle n'était pas censée être là, mais elle était là, et en effet, elle était...
rayonnante.
Elle irradiait, enfin, elle était manifestement très heureuse d'avoir été nommée à ce poste. C'est vrai que c'est un poste où on est en capacité de faire des choses. Et c'est quand même, quand on fait de la politique, c'est quand même ça le but, d'essayer de faire bouger des choses, d'essayer d'agir. Et à ce poste-là, vous avez quand même la possibilité de le faire. C'est un poste où vous êtes visible, vous êtes en capacité d'agir.
Votre vie change le jour où vous êtes nommé ministre. On parle de l'effet Pimpon. En fait, on ne s'occupe plus... Votre agenda ne vous appartient plus, c'est ça, Gilles Bornstein ?
Exactement, votre agenda ne vous appartient plus. Vous êtes pris en charge du soir au matin. Alors, Yaël Braun-Pivet a 5 enfants. Certains ministres habitent dans leur ministère. Donc là, c'est complètement une vie hors sol. D'autres choisissent de rester chez eux. Mais c'est vrai que votre vie change complètement. C'est une sorte de revanche. Enfin, une petite revanche pour Yaël Braun-Pivet. Ses débuts en politique ont été compliqués. Là, c'est son premier engagement. Elle a été nommée élue présidente de la commission des lois en 2017. Beaucoup ont dit que ça avait été fait sous l'aune de la parité, qu'il fallait trouver des femmes présidentes de commission et qu'elles n'étaient pas au niveau. C'est vrai que ses débuts ont été difficiles. On se souvient d'un épisode dans l'hémicycle où Robin Reda nouveau rallié à la majorité, avait été très indélicat avec elle. Début difficile, elle a fait disons qu'elle s'est bien remise d'aplomb. Elle a fait une remontée, si je puis dire, assez étonnante. C'était parmi celles dont on disait que des députés de La République En Marche, elle pouvait être nommée. Je pense qu'il y a aussi un effet pour laisser la place libre à Richard Ferrand, parce qu'elle avait été candidate contre lui au perchoir. On aurait pu penser que le groupe aurait voulu une femme à la présidence de l'Assemblée nationale.
Ça, voilà. Il y a toujours un billard à trois bandes.
Et alors, je sais, pour avoir été en contact avec elle vendredi matin, elle avait eu des assurances, mais enfin, comme tout le monde,
elle était très... elle attendait le téléphone.
Elle attendait très exactement la scène qu'on a vue filmée là.
Écoutez, ça fait plaisir, on a presque envie de la revoir.
Voilà, elle disait, oui, on m'a dit que, mais enfin, tant que je ne suis pas nommée. Dernier mot, on aurait pu penser qu'elle serait garde des Sceaux, parce que, comme vous l'avez dit, on s'attendait à ce que Éric Dupond-Moretti s'en aille.
Donc elle a aimé ce qu'elle a. Quand on n'a pas ce qu'on aime, on aime ce que l'on a.
Exactement.
Non, mais Nicolas Prisset, on vous disait, quand vous êtes ministre, votre agenda ne vous appartient plus. Il y a cette confidence de Julien Denormandie, ça a été l'autre surprise, qui renonce, qui n'est plus dans le nouveau gouvernement, alors que c'était, disait-on, l'un des chouchous du président. Julien Denormandie qui dit « J'ai trop manqué à ma famille, elle m'a trop manqué. » Et au fond, il dit « Bah voilà, il renonce, c'est le choix du cœur, je renonce à être ministre parce que je veux m'occuper de mes enfants que je n'ai pas vus. » Il y a des refus aussi, il y a des gens pour qui, on sait que des premiers ministres auraient refusé, qui disent « J'ai pas envie que ma vie ne m'appartienne plus, d'être scruté, d'être critiqué, de ne plus avoir de week-end, etc. »
Alors en l'occurrence, les refus d'être ministre, ils s'expliquent le plus souvent par des raisons politiques, c'est-à-dire moi je ne veux pas, je viens de la gauche, je ne veux pas venir dans le gouvernement d'Emmanuel Macron parce que je considère qu'il est trop à droite. Ça c'est ce qu'avait expliqué Valérie Rabault, la patronne des députés PS.
Elle n'assumait pas la réforme des retraites, quoi. Voilà.
Exactement, pour elle, la réforme des retraites à 65 ans était injustifiée. Donc ça c'est un refus d'ordre politique. Après, en ce qui concerne Julien Denormandie, ce qui est intéressant, c'est que dans son parcours personnel, c'est pas du tout quelqu'un qui se destinait à être ministre un jour. Et d'ailleurs, il voulait pas non plus se présenter aux législatives. Il était dans le cabinet d'Emmanuel Macron à Bercy. Il l'a ensuite accompagné pendant la première campagne présidentielle. Et à l'issue de cette première campagne présidentielle, on discutait avec lui. Il nous disait, moi, j'ai fait le travail que j'avais à faire auprès de lui. Maintenant, je vais aller travailler. Mes compétences, il est ingénieur. Il voulait retourner travailler dans le privé, voilà, avoir une autre carrière que la politique. Et finalement, Emmanuel Macron le rappelle pour entrer au gouvernement. Il accepte par loyauté et puis fidélité au président de la République. Et là, il considère qu'il a accompli la mission que lui avait demandé son ami Emmanuel Macron. Et il entend se consacrer à sa famille. Bon, c'est vrai qu'on a rarement ce type de scénario, ça existe.
Une autre version circule. On dit qu'il aurait accepté de continuer pour être à Matignon. Et qu'il aurait dit à Emmanuel Macron, c'est Matignon ou rien. Espace de chantage au président de la République qu'il a perdu parce que le président de la République voulait depuis le début une femme à Matignon.
Alors il y en a un autre qui a décidé de ne pas prolonger, c'est Jean-Yves Le Drian, alors qu'il était ministre depuis longtemps parce qu'il était déjà sous François Hollande, mais en pleine guerre en Ukraine, eh bien Jean-Yves Le Drian met fin à ses carrières de ministre des Affaires étrangères. Et samedi, il n'a pas pu s'empêcher, il s'est lâché, parce que samedi, il y a eu aussi des élections en Australie. Et Scott Morrison, le Premier ministre australien qui nous a fait « Ah, alors attendez, je me tais, puisque Premier Conseil des ministres, on voit Emmanuel Macron, nous sommes salle des fêtes de l'Élysée. Je ne sais pas s'il va prendre la parole, on l'écoute !»
Il y a une semaine, j'ai nommé donc Elisabeth Borne, Première ministre, et nous avons constitué un gouvernement, et je veux ici remercier chacune et chacun d'avoir accepté les responsabilités ainsi proposées. Le gouvernement que vous constituez est avant toute chose, comme je l'évoquais dans cette même salle le 7 mai dernier, un gouvernement pour agir. Agir au service de nos compatriotes, agir au service du projet sur lequel ils m'ont fait confiance les 10 et 24 avril dernier, agir dans un contexte inédit, celui où nous sortons à peine d'une pandémie, si tant est qu'elle soit totalement terminée, où la guerre est revenue en Europe, et où, très clairement, nous avons à affronter des défis inédits pour notre société, notre continent. Le gouvernement que vous constituez est un gouvernement pour agir donc, rassembler notre pays, un gouvernement qui lui ressemble. C'est un gouvernement tout à la fois de continuité de nouveautés, avec des femmes et des hommes qui sont issus des formations politiques qui m'ont amené aux responsabilités en 2017 et 2022, d'autres venant de formations politiques différentes, avec cette idée de rassembler, d'unir autour du projet qui nous porte. Des femmes et des hommes qui viennent de la société politique, en tout cas qui ont une expérience politique et des mandats d'élus depuis plusieurs années, et d'autres qui viennent de la société civile et ont décidé de s'engager au service de ce projet. Et c'est pourquoi l'action qui sera la nôtre sera tout à la fois de consolider ce qui a été fait durant les 5 années qui viennent de s'écouler, car un deuxième mandat n'est pas un mandat pour refaire ou défaire, non, il s'installe sur un socle solide, celui d'un bilan, d'une action résolu, mais à l'aune des défis nouveaux, de ce que nous voyons dans notre société, de ce mandat nouveau qui m'a été confié, de pouvoir bâtir une action nouvelle sur le fond et sur la forme, c'est-à-dire de pouvoir embrasser des défis nouveaux, de le faire plus rapidement encore, mais de le faire aussi avec une méthode, et nous y reviendrons avec Madame la Première Ministre nouvelle. Pour toutes ces raisons, je veux à nouveau vous remercier d'avoir accepté les responsabilités qui nous sont ici confiées. Pour moi, le fil rouge, ça a été le cas dans les dernières années, qui est le nôtre, c'est celui du progrès pour notre pays, pour tous nos compatriotes, c'est celui de servir notre devise, c'est-à-dire un projet de liberté, d'égalité, de fraternité, mais aussi de laïcité, un projet qui consiste à transmettre les valeurs de la France et de notre République, mais voilà, d'embrasser ces défis nouveaux. Alors, je ne veux pas être ici trop long, et nous aurons l'occasion d'y revenir dans les semaines qui viennent. Mais quand je parle d'agir au service de nos compatriotes, merci beaucoup. Quand je parle d'agir au service de nos compatriotes, il y a d'abord les urgences. Je pense que vous y reviendrez.
Alors voilà, on a coupé la lumière, c'était visiblement volontaire. Gilles Bornstein, vous disiez, c'est la première fois qu'on entend un président s'exprimer à la table du Conseil. En général, on a toujours la photo voilà. Avec les présidents.
Je ne suis pas une mémoire vivante de la Ve République, mais il est habituel qu'il y ait un tour d'image, comme on appelle ça, lors du premier Conseil des ministres de chaque gouvernement, pour que nous puissions avoir des images, y compris de la nouvelle géographie ministérielle de qui est à côté de qui. Ça, c'est habituel. Le président de la République fait un discours, les délibérations du Conseil des ministres, je pense, sont secrètes. Donc, faire un discours comme ça au début du Conseil des ministres, moi, je n'avais jamais vu ça. Enfin, on ne peut pas vraiment parler de discours. Et sur le fond, je ne peux pas m'empêcher de penser, alors que c'est vraiment du « et en même temps ». Donc, il y a un gouvernement qui est à la fois de la continuité et de la nouveauté, des politiques et de la société civile. Il faut consolider ce qui a été fait, mais aussi entamer une action nouvelle. Si on voulait en savoir plus sur ce que veut faire le président de la République sur ce second quinquennat, c'est pas avec ces bribes de discours qu'on sort.
Mais sur la forme, comme s'il y avait cette volonté de ne pas s'endormir, de continuer à vouloir surprendre, d'être disrupteur, comme il nous le disait en 2017. Est-ce que Papendiaï, c'était presque sur la forme, il faut que j'ai un effet waouh, voilà, et là, il faut que je fasse les choses différemment de mes prédécesseurs pour montrer qu'avec moi, ça bouge.
Mais oui, on voit bien qu'il essaye à chaque fois d'être là où on ne l'attend pas, de surprendre. Ouais. Finalement, c'est un peu ce qui sa marque de fabrique depuis le tout début, hein, avec ses échecs et ses succès. Regardez le grand débat. Quand il a inventé le grand débat après la crise des Gilets jaunes, c'est vrai que ça a réussi à apaiser un peu le mouvement. Parfois ça rate. Là, on sent qu'il a besoin de marquer quelque chose. D'abord, c'est peut-être une façon d'essayer d'occulter un peu la crise d'Amin Abad. Et puis, il a besoin de faire passer des messages parce qu'il y a des élections dans 15 jours, 3 semaines. Hein, c'est très proche. Maintenant. On y arrive, là. On y arrive. Et donc, il a besoin de faire passer des messages. Cela dit, là, je pense que ça peut lui être... Je ne sais pas si ça peut... Je ne sais pas. Je pense que les gens ont besoin justement de comprendre ce qui se passe. Et voilà, c'est peut-être une façon, mais comme vous l'avez dit, il ne répond pas vraiment, il n'éclaircit pas tellement les choses.
Nicolas Prisset, agir, comme s'il n'avait qu'une seule peur, c'est que ce deuxième quinquennat soit le quinquennat fainéant, comme on l'avait reproché à Jacques Chirac ou à François Mitterrand. Hein.
Et oui, parce qu'il n'est plus dans la perspective d'une éventuelle réélection, puisque la Constitution lui interdit. Donc, pour Emmanuel Macron, la perspective de ces 5 années, c'est d'arriver à mettre en œuvre la politique qu'il a choisie, dont il est redevable et responsable auprès des Français, et puis de laisser sa marque dans l'histoire. Ça, c'est ce qui l'attend pour les 4 ou 5 prochaines années. Je dis 4 parce que la dernière année, ça sera une année de combat féroce pour sa succession. Mais... Et là, c'est de l'image qu'il fait, qu'il vient de nous proposer. C'est de l'image. Dans les mots, on n'apprend rien du tout. Il n'y a pas d'information sur la façon dont vont être mises en œuvre les réformes. Là, il est encore une fois dans les intentions. Et il l'est beaucoup depuis le second tour de la présidentielle, où il n'y a pas une seule décision qui a été prise de sa part ou de la part du gouvernement. Il faut dire qu'il est à peine nommé. Mais en tout cas, rien n'a été posé sur la table en termes d'action. Et donc, on peut comprendre que pour ses électeurs, ils puissent peut-être commencer à avoir une forme d'impatience à voir la politique du second quinquennat se décliner dans les faits. Là, on est encore en période, évidemment, d'élection. Il y a ces législatives qui arrivent. Et en quelque sorte, il imprime, subliminalement ou pas, une forme de campagne dont il reste le principal maître d'œuvre, l'architecte, le directeur de campagne pour la majorité présidentielle, c'est Emmanuel Macron. Et là, c'est un peu ce qu'il fait dans cette présentation, en expliquant que, ben voilà, vous l'avez dit, Gilles, on reste dans le en même temps, tout est équilibré, mesuré. Et donc, c'est dans cet esprit-là que je mène la campagne législative.
Est-ce que ce n'est pas le risque, Alexandra Schwarzbrunn, d'une présidence ultra, ultra présidentialisée, où au fond, Elisabeth Borne n'apparaît plus que comme une collaboratrice.
De toute façon, c'est dans l'ADN d'Emmanuel Macron, hein, de vouloir être l'omniprésident. L'homme clé, l'homme pivot de la politique française. Donc, et c'est ce qui, justement, je pense que c'est un des éléments qui fait que Jean-Luc Mélenchon a marqué tant d'esprit. Parce que autant beaucoup de gens à gauche lui reprochent son europhobie et donc sont très mal à l'aise avec sa position vis-à-vis de l'Europe, autant sa volonté de remettre tout à plat, et notamment l'idée d'une 6e République, d'essayer d'arrêter avec cette présidentialisation à outrance qui est notre politique aujourd'hui. Ça, je pense qu'il y a beaucoup
remettre
de gens...
le Parlement au cœur de la politique française.
Redonner de la place au gouvernement, de la visibilité au gouvernement, et surtout en finir avec cette présidentialisation à outrance qu'a incarné Emmanuel Macron, cette espèce de côté jupitérien. Ça, les gens ne le supportent plus. Et donc ça, je pense que c'est aussi, ça fait beaucoup pour le succès de Jean-Luc Mélenchon.
Merci beaucoup d'avoir commenté et d'être resté avec nous pour commenter ce premier Conseil des ministres avec, et c'est une première décidément, le chef de l'État qui s'est exprimé. Vous restez sur France Info pour la suite de cette journée cruciale en matière politique, et on se retrouve demain pour un nouvel Info C'est Clair. Bonne journée, à demain.